Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio Micro Rebelle. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que ce magazine est diffusé en direct sur microrebelle.fr et en différé chez nos amis de Radio PFM. Donc c'est en direct chaque vendredi de 18h à 19h et sur Radio PFM 99.9 ou en DAB+, le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine des luttes sociales, luttes écologiques, luttes alternatives dans le bassin minier et au-delà. Comme chaque semaine, nous allons avoir des actualités, des reportages et nous commençons par notre agenda social et culturel. Alors le samedi 24 octobre, c'est la foire aux installs de CLIS 21. Cette foire aux installs est maintenue, autrement dit pas d'impact par rapport au couvre-feu. Donc CLIS 21 vous attend au LAG 23 avenue Jean Jaurès à Liévin de 14h à 17h. La foire aux installs, c'est une bonne occasion pour libérer et se réapproprier son ordinateur en installant par exemple Debian, qui est une distribution GNU Linux. Le principe est maintenant bien rodé. Vous venez avec votre tour ou votre ordinateur portable et CLIS 21 vous aide durant toutes les phases de l'installation puis de configuration. C'est aussi l'occasion de venir découvrir des logiciels libres, Debian, GNU Linux et beaucoup d'autres, que ce soit pour trouver une réponse à vos questions ou par curiosité, n'hésitez pas à franchir la porte. Alors au-delà du logiciel, ce temps est également propice pour discuter de nos usages de l'outil informatique, d'Internet et de tous les services qu'on peut trouver sur le web. Cette foire aux installs débute par une présentation thématique, donc à 14h. Si vous souhaitez y assister, ne soyez pas en retard. Foire aux installs, je rappelle, au LAG 23 avenue Jean Jaurès, de 14h à 17h, ce samedi 24 octobre. Alors le même jour, il était prévu, à l'initiative de CLIS 21, un ciné-débat autour du documentaire « Lettres à G », repenser notre société avec André Goff. Donc c'était prévu en soirée, je ne m'y attarde pas, du fait du couvre-feu, CLIS 21 a reporté cette initiative. Le même jour, toujours ce samedi 24 octobre, libérer Georges Abdallah. Le 24 octobre, Georges Abdallah entamera sa 37e année de détention en France. C'est un militant politique communiste libanais qui s'est opposé à la politique israélienne et qui a été condamné à la prison à perpétuité sans aucune charge sérieuse contre lui. Ce 24 octobre, comme chaque année depuis 10 ans, des manifestations sont organisées devant la prison où est enfermé Georges Ibrahim Abdallah à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Et je termine cet agenda par vous parler de notre association Micro Rebelle. Chaque dernier samedi du mois, donc ce sera samedi prochain, 31 octobre, chaque dernier samedi du mois, donc Micro Rebelle propose à ses adhérentes et adhérents ainsi qu'à ses auditrices et auditeurs, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par Micro Rebelle, votre radio, ou encore autour des projets et de la vie de l'association. Donc ce samedi 31 octobre, samedi prochain, la thématique sera « Quel programme et via quel support Micro Rebelle peut-elle proposer ?» Alors d'autres infos sur le contenu de cette Assemblée Générale ouverte sont disponibles sur le site de Micro Rebelle. Alors attention, en raison de l'occupation de la Maison des Jeunes Buissons, là où sont nos studios, cet AG de Micro Rebelle aura lieu au LAG 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. C'est la fin de cet agenda social et culturel. Sans attendre et sans transition de la musique libre, je vous propose Alexandre Zekanov, Uncatchable. Oui, ce petit indicatif sonore annonce notre rubrique Actualité et Revue de presse. Alors, impossible hein, cette semaine de démarrer cette rubrique Actualité sans évoquer l'assassinat de Samuel Paty, enseignant en histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine. Un assassinat horrible, effroyable. Il n'est plus possible aujourd'hui de caractériser cet assassinat par un jeune d'origine tchétchène comme étant dû à la radicalisation d'un individu isolé. Localement, le collège de Conflans-Sainte-Honorine était dans une sorte de tourbillon médiatique avec au centre ce professeur, victime d'une campagne haineuse, une campagne qui s'est articulée autour de la personne d'Abdelhakim Sefrioui. Cet Abdelhakim Sefrioui est un agitateur intégriste, gérant d'une librairie religieuse à Paris et soutien de Dieudonné. De même, la création par Abdelhakim Sefrioui du collectif Cheikh Yassine n'est qu'une tentative d'instrumentaliser le soutien au peuple palestinien. Bref, c'est donc un membre de l'extrême droite fasciste au sein du monde musulman. Nous avons nos fascistes d'extrême droite, le monde musulman a les siens. Et leurs objectifs sont simples. Imposer leur ordre moral à tous, à commencer par les musulmans. Et partant de là, diviser. Diviser celles et ceux qui habitent un même territoire. D'un côté, les bons musulmans, ceux qui suivent le ramadan, ne boivent pas d'alcool. De l'autre, les mauvais musulmans, qui ne se conforment pas aux règles qu'ils édictent ou les non-musulmans, impurs ou mécréants. Diviser aussi les travailleuses et travailleurs. Parce que, comme l'extrême droite fasciste française, ils préparent une dictature contre les classes populaires. Demain, ils interdiront qu'on écoute de la musique ou qu'on joue au foot, comme c'est le cas dans certaines régions contrôlées par Daesh. Alors, les réponses du gouvernement à ce crime atroce sont des réponses politiciennes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, propose de dissoudre le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Le CCIF est une association de défense juridique des musulmans qui n'a rien à voir avec le meurtre de Samuel Paty. L'État français formule ainsi un amalgame inacceptable, fait de racisme et d'autoritarisme. Darmanin a également calomnié le syndicat Sud Éducation comme le directeur de Mediapart en les rendant responsables, je cite, « d'une ambiance, d'une température ayant permis le passage à l'acte du meurtrier », je continue à citer, « en excusant tout ». C'est faux et c'est grave et inacceptable. Il s'agit là encore d'amalgamer aux terroristes islamistes celles et ceux qui défendent l'égalité des droits contre le racisme islamophobe. De même, les perquisitions administratives déclenchées au sein de ce que le ministre appelle la « mouvance islamiste » ont pour but d'effrayer, de faire taire. C'est clairement un glissement autoritaire du régime. À la suite de tout ça, les surenchères vont évidemment bon train. Surenchères qui s'appuient sur l'amalgame honteux et odieux « immigration égale terrorisme ». Jean-Luc Mélenchon parle de problèmes avec la communauté tchétchène. Il a depuis retiré ses propos. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, veut fermer des mosquées. Être islamophobe devient ainsi une opinion acceptable, tout au moins discutable. Il faut dire que le projet de loi à venir sur le séparatisme montre la voie à suivre. Il faut refuser ce racisme. Il faut refuser de nous diviser. On imagine bien sur quoi tout cela peut déboucher. Les contrôles aux faciès vont s'intensifier. La suspicion va s'étendre. Les migrants vont se faire massivement expulser, etc. Il nous faut combattre à la fois tous les obscurantismes et toutes les récupérations islamophobes. Dans l'actualité, couvre-feu dans l'ensemble du Pas-de-Calais à compter de ce vendredi minuit et durant 6 semaines. Et là, je voudrais rappeler ce que nous évoquions la semaine dernière. Ce sont nos interactions sociales qui sont visées. Les rencontres privées seraient le principal lieu de contamination. Or, selon les chiffres de Santé publique France, les principaux clusters sont les entreprises et les établissements scolaires, sans compter les transports en commun où les travailleurs et travailleuses s'entassent pour aller au boulot. En pratique, les ateliers et les bureaux sont en effet souvent très mal ventilés. Quant aux salles de classe, elles sont souvent trop petites au regard du nombre d'élèves et de personnel enseignant ou autre qui s'y entassent. Ainsi, ce couvre-feu s'inscrit dans des décisions qui nuiront le moins à la bonne marche de l'économie. Il faut aller travailler, il faut que l'école accueille les enfants pour que les parents aillent bosser. Dit autrement, les mesures annoncées par Emmanuel Macron visent à préserver les profits des entreprises. C'est le cas de ce couvre-feu qui vient de s'étendre à nos territoires. Emmanuel Macron se pose en relais du patronat et propose de limiter notre vie sociale avec un couvre-feu qui risque bien d'être inefficace. C'est une mesure qui ne sert qu'à donner l'impression d'une action forte pour un gouvernement largement critiqué pour sa mauvaise gestion de l'épidémie au printemps dernier. Le tout en permettant au patronat de continuer l'activité économique en envoyant les travailleuses et travailleurs au boulot pour engranger des profits. Le Covid cristallise ce qu'est notre système économique. À son stade de développement, le capitalisme engendre la mort. La mort biologique tout d'abord, avec les pandémies, les pollutions, le dérèglement climatique. La mort sociale ensuite, avec le confinement, le couvre-feu, la suspension des libertés. La mort psychique, enfin, pour celles et ceux qui ne supportent pas ces épreuves. Alors, il faut faire entendre d'autres voix. On pourrait toujours rester dans les généralités et dire qu'il faut abattre le capitalisme. On ne se contentera pas de ça. Tout d'abord, on rappellera ce que de nombreux épidémiologistes s'efforcent de faire passer comme message. La seule stratégie efficace de lutte contre la diffusion du Covid-19 passe par un dépistage massif au sein de la population, puis par l'isolement des seules personnes infectées. Encore faut-il disposer du matériel, du personnel et des infrastructures appropriées à un dépistage massif. Et encore faut-il pouvoir isoler les personnes infectées en prenant en charge toutes les réalités que cela recouvre, par exemple concernant des familles entassées dans des logements exigus. Et puis, il faut recruter dans la santé et augmenter les salaires et les moyens des soignantes et soignants. Il faut utiliser les profits gigantesques réalisés par les grands groupes, par exemple pharmaceutiques, pour financer le ralentissement ou l'arrêt de l'activité des entreprises afin de limiter les foyers de contamination sur les lieux de travail et dans les transports. Et puis, pour ce qui nous concerne, en réponse au couvre-feu, il nous faut consolider nos liens, renforcer nos outils de lutte, de résistance et de solidarité. Il nous faut organiser une riposte d'ampleur à la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron et de la classe capitaliste. Une dernière actualité pour ce qui concerne cette semaine, une actualité qui concerne Bridgestone. Dans l'avenir de l'Artois, cette semaine, en titre, le scénario de l'État qui sauverait 560 emplois. Et en sous-titre, le 19 octobre, le gouvernement a publié le rapport Accenture. Un investissement de 100 millions d'euros permettrait de relancer Bridgestone et sauverait 560 emplois. Fin de citation. Alors rappelons tout de même que ce plan reste très hypothétique et que le nombre de salariés menacés de licenciement est de presque 900. Ceci étant, le courrier des lecteurs de La Voix du Nord nous donne un autre éclairage. Il s'agit d'un lecteur qui signe JPD et qui écrit, je cite, « Bridgestone sauvé ? À quel prix ? L'usine Bridgestone serait sauvée, mais à quel prix ? Sur les 843 emplois, seuls 400 seraient repris. Le département apporterait 30% des 100 millions d'euros nécessaires pour moderniser des machines, avec sans doute aussi une aide de l'État et de la région. Mais alors, poursuit ce lecteur, ne serait-ce pas le bon plan pour une entreprise qui veut licencier plutôt que d'être aidée par l'argent du contribuable ? A-t-on pensé aux 443 employés qui seront licenciés ? Auront-ils eux aussi des aides ? Fin de citation, c'était donc dans le courrier des lecteurs de La Voix du Nord. Eh oui, on a à Bridgestone un patron sans scrupules, uniquement tourné vers l'intérêt des actionnaires. Et quelle est la solution devant ce patron voyou ? Lui redonner 100 millions. Allez, soutenons les travailleuses et travailleurs de Bridgestone et ne nous laissons pas endormir par les gesticulations politiciennes. Fin de cette rubrique actualité et revue de presse. On poursuit toujours avec de la musique libre, Night du groupe Cloud Kicker. Thank you.
web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
On est toujours ensemble hein, sur notre émission Micro-Rebelle Hebdo, chaque vendredi de 18h à 19h hein, sur notre site internet micro-rebelle.fr ou au travers de l'appli de la Franf. Également rediffusée, je le rappelle, par nos amis de Radio PFM dans la Rajoie, en ondes hertziennes 99.9 ou en DAB+, rediffusion le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Reportage maintenant dans ce micro-rebelle hebdo. On va vous proposer la conférence de Nicolas Bérard. Nicolas Bérard, c'est un journaliste hein, qui a écrit 5G, mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. C'est édité par Le Passager clandestin et L'Âge de fer. Donc Nicolas Bérard était de passage dans la région pour une tournée de conférences organisée par les collectifs ACAD, hein, dont on a déjà eu l'occasion de parler sur cette station, organisée également par Calgea, par Stoplinky et 5G Pays de Condé, ainsi que le collectif Lambert Sartois et l'association Le Forêt Environnement. On vous propose donc cette conférence de Nicolas Bérard sur la 5G.
Entre les amiches et le transhumain, entre la lampe à huile et le maillot de bain connecté qui vous dit quand vous retournez pour ne pas cuire au soleil, il existe des alternatives. Le progrès technique n'est pas une fin en soi, et lorsqu'il nous est imposé en dépit des catastrophes écologiques et des drames humains qu'il charrie, il pose des problèmes de démocratie et de choix de société. Nicolas Bérard, journaliste, enquête depuis plusieurs années sur les questions de l'énergie, des ondes et de la Smart City. Il a récemment publié 5G Mon Amour, une enquête sur la face cachée des réseaux mobiles, qui nous renseigne sur les risques sanitaires, écologiques, politiques que comporte le déploiement de la 5G. De passage dans la région, nous avons enregistré la conférence qu'il a donnée à Le Forêt.
Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je voulais déjà remercier Pierre, les associations, les collectifs, monsieur le maire qui nous accueille ici, parce que effectivement, comme ça vient d'être dit, en fait, il y a une vraie nécessité, à mon avis, de parler de la 5G. Et il y a un vrai déficit de démocratie qui est vraiment flagrant autour de ce projet. Parce que les questions, en fait, ne sont jamais posées. On constate déjà que c'est un projet qu'on nous annonce une fois qu'il est lancé, quasiment. Les citoyens n'ont jamais été informés clairement sur ce projet-là. Et aujourd'hui, quand on essaye de s'exprimer, de prendre la parole, on voit qu'on se heurte à un mur et qu'on nous explique qu'il n'y a pas de débat et que, comme disait Pierre, en gros, on n'arrête pas le progrès. Encore faudrait-il s'interroger sur ce que signifie le progrès. Alors pour montrer ça, on peut revenir sur un exemple flagrant, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place par Macron sous la pression des Gilets jaunes, des mouvements sociaux, etc. Donc il a créé cette Convention citoyenne pour le climat, à laquelle il a demandé de formuler 150 propositions en promettant que ces propositions-là seraient reprises, soit telles quelles, soit présentées à l'Assemblée sans filtre, soit soumises à référendum. Le jour où ces propositions ont été remises, il s'est accordé 3 jokers. Bon, ce qui était a priori pas prévu au départ, mais il a eu 3 jokers. Et aucun de ces 3 jokers n'a porté sur la proposition de la Convention qui était de faire un moratoire sur la 5G, le temps au moins de réaliser des études d'impact sanitaire et environnemental. Donc il ne proposait même pas d'annuler le déploiement de la 5G, il demandait juste du répit, du temps pour pouvoir savoir quels impacts aurait ce projet-là. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron, devant un parterre d'entrepreneurs de la French Tech, a expliqué que de toute façon, la 5G se ferait et qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. C'est à cette occasion qu'il a assimilé les opposants à la 5G à des amiches. Soit dit en passant, pour moi, être un amiche, c'est pas une insulte, même si je suis pas un amiche, mais passons. Qu'il a assimilé donc les opposants à des amiches et en disant que c'était soit la 5G, soit le retour à la lampe à huile. Et ça, c'est aussi symptomatique de quelque chose, c'est-à-dire que le message qu'il essaye de faire passer, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est que c'est la 5G ou rien. Et ça, ça pose un vrai problème, là encore d'ordre démocratique, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre à proposer. Pour lui, le progrès passe nécessairement par ce grand projet industriel. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur la 5G. Et cette 5G, elle pose divers problèmes. On peut penser qu'un seul de ces problèmes pourrait suffire à mettre le frein sur le déploiement de ce réseau, mais il en pose plusieurs. Et on va essayer de les examiner un peu. Le but, c'est que je prévois à peu près une demi-heure pour qu'après, on puisse échanger sur différents sujets et revenir sur certains sujets sur lesquels on peut approfondir. Donc c'est les problèmes que pose la 5G, ils sont, à mon avis, de plusieurs ordres, d'ordre sanitaire, d'ordre social, écologique et d'organisation de la société, de savoir dans quelle société on veut vivre demain. Parce que la 5G n'est pas seulement un réseau téléphonique de plus, c'est toute la société qui doit se réorganiser autour de ce réseau et on va vers une société de l'hyperconnexion où tout doit être connecté à tout, pas seulement les smartphones, mais tout ce qui nous entoure, donc ça passe par les réseaux d'énergie, on l'a vu avec le compteur Linky pour l'électricité, Gaspar pour le gaz, les réseaux de transport, mais aussi l'ensemble des objets qui nous entourent. Il y a une société qui s'appelle la société Violet, qui est une société française, qui expliquait en 2012 avoir recensé l'ensemble des objets qu'ils trouvaient dans une habitation. Et ils avaient comptabilisé 6000 objets. Donc ils avaient vraiment tout compté, le frigo, mais aussi les paires de chaussettes, la brosse à dents, tout. Et en 2012, donc, ils disaient qu'il n'y avait que trois objets qui étaient connectés, la télé, le téléphone et l'ordinateur. Et la conclusion de cette société, c'était de dire qu'il en reste 5997 à connecter. Donc ça pouvait paraître fou en 2012, mais aujourd'hui, on est en train d'assister à l'avènement de ce modèle-là. Aujourd'hui, on trouve des couches connectées, des maillots de bain connectés, des frigos connectés, des lunettes connectées, et petit à petit, on voit tous ces objets apparaître dans notre environnement. Et donc, pour faire communiquer tous ces objets, les réseaux actuels n'étaient pas suffisants, d'où la nécessité pour les promoteurs de ce modèle-là de mettre en place la 5G. Alors, ça pose divers problèmes. Je vais commencer par celui de la santé. Ce qu'on sait pour l'instant sur la 5G, c'est qu'on n'a pas d'études sur l'impact sanitaire que peut avoir cette technologie. Mais on a par contre des études sur les réseaux précédents. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'études réelles, spécifiques, sur les ondes utilisées par la 5G, il faut savoir que ce sera des ondes avec des fréquences beaucoup plus élevées. Le discours actuellement des promoteurs, c'est de rassurer la population en disant « Mais rassurez-vous, les tests qu'on a faits montrent qu'on respecte toutes les normes qui sont en vigueur actuellement. » Et en fait, dans les faits, c'est vrai que, a priori, avec la 5G, ils respecteront toutes les normes en vigueur. Mais le problème, c'est les normes elles-mêmes et la façon dont elles ont été fixées. Ça a été fixé à la fin des années 90 par un organisme qui s'appelle l'ICNIRP, qui travaille très étroitement avec l'industrie de la téléphonie mobile. Et en fait, ils l'écrivent en toutes lettres dans leur travail. Ils ont considéré que les seuls risques avérés liés aux ondes, c'était les risques immédiats. Donc, quand les industriels disent qu'on est protégé parce qu'il existe des normes et que ces normes sont respectées, en fait, ça vous garantit simplement que vous n'aurez pas la peau de l'oreille ou de la joue brûlée une fois que vous aurez fini votre conversation téléphonique. Ça ne vous protège pas des effets sur le long terme. Et là encore, ils l'écrivent en toutes lettres dans leur travail. Ils disent que malgré le fait qu'il y ait des suspicions parce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées, qui semblent montrer un lien entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et l'apparition de certains cancers, d'insomnie, de migraines, de tout un tas de pathologies comme ça, ces risques-là sur le long terme ne sont pas pris en compte par les normes. Donc ça, c'est un sujet... Enfin, c'est, à mon avis, important de comprendre ça, parce qu'à partir de là, leur discours s'effondre, en fait. Dans les médias, c'est vraiment leur moyen de défense de dire qu'il y a des normes et qu'ils les respectent. Mais il faut savoir que ça ne nous protège pas des effets sur le long terme. Or, ce qu'on constate depuis plusieurs années maintenant, c'est de plus en plus de gens qui se plaignent de souffrir des ondes. Et tu pourras peut-être nous en parler tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de personnes qui disent souffrir des ondes. C'est une réalité qui est de plus en plus difficile à cacher. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, il y a aussi des études. Récemment, il y a le NTP, donc qui est la plus grande agence de santé des États-Unis, qui a réalisé une étude qui a coûté plusieurs millions de dollars et qui a duré plusieurs années, qui portait sur les rats. Et la conclusion de cette étude, ça a été de dire qu'il existait un lien évident, une preuve évidente d'un lien entre l'exposition aux ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile et l'apparition de certains cancers. Or, la seule chose qu'on sait pour l'instant par rapport à la 5G, c'est que ça va augmenter notre exposition moyenne aux ondes électromagnétiques d'environ 30%. Ça, c'est des projections. Donc ce brouillard électromagnétique dans lequel on évolue déjà à travers les réseaux 2G, 3G, 4G, va encore être épaissi, augmenté de 30%. Donc au minimum, le déploiement de la 5G nous fait prendre un risque d'ordre sanitaire. Ça, c'est indéniable. Donc à partir de là, on peut se demander au nom de quoi on nous ferait prendre ce risque-là. Quelles sont les contreparties ? Donc, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve d'un point de vue écologique, évidemment, les promoteurs de la 5G vont notamment tenter de faire croire que c'est un projet qui va dans le sens de l'écologie. Ça, de toute façon, à l'heure actuelle, tous les grands projets, ils passent entre les mains de communicants. Et ces communicants-là vont essayer de bâtir un argumentaire pour dire que ça va dans le sens de la transition, etc., etc. Sur la 5G, ils se sont mis à le faire, mais c'est franchement indéfendable, à mon avis. Pourquoi ? Par exemple, ils vont dire qu'une antenne 5G consomme moins qu'une antenne 2G, qu'une antenne 3G ou qu'une antenne 4G. Et il y a une part de vrai là-dedans, c'est-à-dire que pour... Une même quantité de données transmises, une antenne 5G va consommer moins d'énergie qu'une antenne 2G ou qu'une antenne 4G. Seulement, il faut déjà savoir que la 5G ne va pas remplacer les réseaux actuels, elle va s'ajouter aux réseaux actuels. Donc les antennes 2G, 3G et 4G qu'on a actuellement vont continuer à fonctionner. Et puis deuxièmement, la 5G, on nous promet des transmissions à une vitesse de transmission multipliée par 10. Mais ça, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un effet rebond qui fait que, quasiment automatiquement, si vous permettez aux gens de télécharger plus, ils vont télécharger plus. On peut faire un parallèle avec la voiture. Si vous construisez des routes et des parkings, de façon quasiment inévitable, vous aurez plus de voitures en circulation. Et ça, on estime, les premières estimations, c'est que les transmissions de données vont être multipliées par 100, voire par 1000, si la 5G est mise en place. Donc pourquoi ? Parce que, fatalement, les gens, s'ils peuvent télécharger plus... télécharge plus, en règle générale. Et puis, par exemple, pour télécharger une vidéo, il y a aussi toute l'industrie qui est derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer en basse définition, ils vont l'envoyer avec une meilleure qualité. Donc, c'est des fichiers qui sont plus lourds, etc. C'est tout un mécanisme qui est derrière. Et puis, en plus de ça, il y a tous ces objets communicants qui, à l'heure actuelle, ne sont pas communicants et qui sont voués à le devenir. Donc, ça aussi, ça augmente considérablement les transmissions d'électricité. Résultat, les premiers retours qu'on a qui arrivent de Chine, c'est une augmentation de la consommation électrique, c'est une multiplication par 3 voire par 3,5 de la consommation électrique depuis la mise en place des réseaux 5G. Alors tout ça, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très loin d'être anecdotique. En France, on estime que ça pourrait augmenter la consommation d'électricité de 2%, juste pour mettre en place ce réseau 5G. Et ces dépenses, pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, le numérique, ça représente 3,7% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire autant que l'aviation civile. C'est plus facile de matérialiser la chose quand on voit passer les avions. On sait tous que les avions sont très polluants, mais le numérique émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Et le problème, c'est que le numérique est en constante augmentation. Ça augmente de 8% par an. Si on voulait respecter les accords de Paris, il faudrait que ces émissions liées au numérique baissent de 5% par an. Au contraire, elles augmentent de 8% par an. Ce qui fait que si on continue comme ça, dans 5 ans, le numérique, ça représentera autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'ensemble du parc automobile mondial. Donc on n'est pas sur des choses qui sont anecdotiques. C'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on parle de dématérialisation, là aussi, il faut casser ce discours-là. Le numérique, c'est des choses qui sont bien matérielles. Ça passe par des ordinateurs, par des serveurs, par des antennes relais, etc., etc. Par ailleurs, ce qu'on constate avec l'énergie, on pourrait faire le même constat avec les ressources naturelles, les matières premières, parce que, évidemment, tout ce monde de la 5G, ça va nécessiter de renouveler les smartphones, parce que une bonne partie de la population va vouloir avoir un smartphone compatible avec la 5G. Ça nécessite de créer ces milliards d'objets connectés qu'on nous promet. La Commission européenne elle-même parle de jusqu'à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Donc tout ça, il va falloir le construire. Donc il va falloir aller puiser des ressources, des terres rares, ouvrir de nouvelles mines, aller creuser toujours plus loin dans la terre, avoir une pression toujours plus grande sur les milieux naturels. Et tout ça, évidemment, va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire si on veut se sortir, ou en tout cas limiter les effets du dérèglement climatique. Donc ce qu'on nous présente comme quelque chose d'ultra-moderne, la 5G, c'est en fait la continuation d'un modèle capitaliste qui est en cours depuis deux siècles, qui consiste à puiser toujours plus de ressources, à utiliser toujours plus d'énergie et à encourager cette société de l'hyperconsommation. Donc c'est finalement un projet qui est issu d'un vieux modèle dont on connaît les conséquences sur l'environnement. Et tout ça donc se fait au nom d'un projet de société dont on nous a jamais informé de ce projet de société. On nous donne quelques pistes aujourd'hui parce que le débat s'est plus ou moins imposé dans les médias, mais sans quoi on n'en parlerait même pas. Alors au départ, la promesse de l'industrie, c'était de dire « Grâce à la 5G, vous aurez des débits multipliés par 10, un temps de latence divisé par 10 ». Et ils pensaient que la population allait adhérer automatiquement à cet argument-là. À mon avis, ils se sont un peu trompés et finalement, ils se sont aperçus que ça ne faisait pas rêver grand monde de pouvoir télécharger un film de 2 heures en moins de 10 secondes. Je ne suis pas sûr que les gens en aient réellement envie, et réellement envie d'aller toujours plus vite. Du coup, ils ont commencé à adapter un peu leur argumentaire. Et parmi les deux arguments qui reviennent souvent, c'est la médecine et la voiture autonome. Souvent, quand on leur demande « Mais pourquoi, finalement, quel sera l'intérêt pour nous de cette 5G ?», ils passent assez rapidement et disent « Bah, il y aura plein d'applications, et par exemple, la télémédecine et la voiture autonome. » Et ça tombe très bien, parce que ces deux exemples, quand on les observe, on peut se demander l'intérêt réel que ça aura pour nous. Par exemple, la voiture autonome. qu'est-ce que va nous apporter la voiture autonome ? Il faut déjà partir du principe que je pense que personne ici n'aura les moyens de se payer une voiture autonome. Donc la voiture autonome, au pire, si vraiment ils arrivent à faire advenir ce modèle-là, ça remplacera finalement les taxis. Alors quel intérêt ? Ils nous disent, c'est formidable, vous pourrez être déplacé d'un point A à un point B sans avoir à conduire. Bon, mais ça, c'est un taxi, en fait. Ça existe déjà. Le service, on l'a déjà. La différence entre une voiture autonome et un taxi, c'est un emploi en moins. Il n'y a pas d'autres avantages pour nous. En revanche, il y a des inconvénients, l'emploi en moins, et puis le fait de devoir remplacer le corps du chauffeur de taxi et son intelligence, ça va passer par un réseau, donc sans fil, forcément, puisque c'est une voiture, des capteurs, des ordinateurs qui vont devoir calculer les informations envoyées par les voitures, etc., etc. Donc une consommation d'énergie qui va être énorme par rapport au chauffeur de taxi qui, lui, a besoin de 3 repas par jour pour pouvoir faire fonctionner son véhicule. Donc sur la voiture autonome, clairement, on n'a aucun avantage à cette invention. Le deuxième argument qu'ils mettent en avant, c'est celui de la télémédecine et de la téléchirurgie. Et là encore, il faut reposer les bonnes questions. Quels seront les avantages pour nous de cette télémédecine et de cette téléchirurgie ? Ils parlent d'une expérience qui a été réalisée avec succès en Chine, d'un patient qui s'est fait opérer d'une tumeur par un médecin, par un chirurgien qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de son lit d'hôpital. La question, c'est pourquoi il y a eu cette nécessité de se faire opérer par un chirurgien qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de là ? Qu'est-ce qui fait que ce patient se trouvait dans un tel désert médical qui fasse qu'on ait besoin de la 5G pour l'opérer à distance ? Et aujourd'hui, quand le gouvernement essaye de nous dire que la télémédecine, ça va être quelque chose de formidable, c'est un gouvernement qui, en même temps, qui dit ça, supprime des lits d'hôpital, supprime des postes d'infirmières. Donc je veux dire, quelle médecine on veut ? Et là, on touche vraiment, je pense, au cœur du problème, et je ne vois pas comment ils peuvent défendre leur modèle. C'est de dire, mais est-ce que le soin, c'est pas avant tout de l'humain ? Est-ce qu'on peut dispenser du soin à travers un écran ou à distance ? Et là, en fait, on voit que derrière, il y a toute une idéologie qu'on essaye de nous inculquer et de nous faire avaler. C'est de dire que le progrès, on revient à cette question du progrès, c'est de dire que le progrès est forcément technologique, passe forcément par de l'innovation technologique. Et à mon avis, on peut leur opposer un autre modèle qui passe au contraire par de l'humain. Parce que toute cette technologie-là, ça nécessite des milliards d'investissements, ça nécessite énormément d'énergie, on fait travailler des ingénieurs, on bâtit des laboratoires de recherche, etc. Donc tous les investissements sont mis dans les machines pour des choses qui seraient mieux faites par de l'humain. On le voit aussi, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, avec quelle rapidité ils se sont jetés sur l'opportunité qui a été offerte par le confinement de mettre en place l'éducation à distance. Et là, pour eux, ça a été une occasion unique et inespérée, sans doute, de mettre en expérience en grandeur nature un projet d'éducation à distance. Donc, est-ce que demain, on va avoir, s'ils continuent sur ce modèle-là, des cours qui seront donnés à travers des tablettes. Et puis, bah, pourquoi pas, après tout, puisque si une enseignante peut dispenser un cours à 30 élèves sur une tablette, elle peut le faire pour 60, pour 100, pour 200. Donc là encore, on va investir dans du numérique et supprimer des postes. Et finalement, on retrouve toujours cette logique-là, de faire passer les investissements dans la technologie et de supprimer des emplois et d'effacer tous les facteurs humains. Il faut savoir que parallèlement à ça, les ingénieurs de la Silicon Valley qui, eux, construisent ces tablettes, construisent tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ce modèle-là, eux inscrivent leurs enfants dans des écoles où les tablettes sont interdites et où il y a de l'humain. Donc en fait, quand ils essayent de nous faire croire que le progrès passe par la technologie et par du numérique, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura une espèce de vie low cost pour une majorité de la population qui passera par du numérique et que les moyens humains seront réservés à une petite élite riche et que eux voilà pourront bénéficier de d'un modèle beaucoup plus humain. Donc je pense que déjà le fait qu'on se réunisse, même si on n'est pas très nombreux, mais c'est un premier pas et je pense que la bataille fait que commencer, c'est super important parce que ça va passer par des petites réunions comme ça et il faut qu'on comprenne que la 5G c'est quelque chose de très concret et qui n'est pas inéluctable. Et il faut, si on veut être efficace, qu'on leur oppose toujours un autre modèle en leur disant « Vous, c'est cette voie-là que vous avez tracée. Nous, on n'est pas des Amish, on n'est pas forcément pour le retour à la lampe à huile, mais on a autre chose à proposer et il doit y avoir des alternatives à ce modèle de la 5G. » Je termine juste parce que j'en ai pas parlé. La 5G, c'est aussi un modèle de société qui repose sur le contrôle et une surveillance généralisée. Les premières années où ont été installées la 5G dans certains pays, notamment en Chine, 70% des objets connectés à la 5G, c'était des caméras de vidéosurveillance. Et vous avez sûrement vu ces informations où maintenant la vidéosurveillance est associée à la reconnaissance faciale et où le moindre fait et geste des citoyens chinois peut être examiné en temps réel et on leur attribue une note sociale, ce qui fait que s'ils traversent pas dans les clous, par exemple, leur note sociale est diminuée et en dessous d'une certaine note, ils ne peuvent plus prendre le train, ils n'ont plus accès aux prêts bancaires, etc. etc. C'est le crédit social, ouais, tout à fait. Et voilà, et ça a déjà aujourd'hui avec la 4G, on voit ce que ça peut donner. Je termine sur l'exemple du facteur pour voir comment ils arrivent à imposer cette société du contrôle. Aujourd'hui, si vous voulez inviter votre facteur à boire un café, normalement, il doit refuser et il peut être contrôlé par sa hiérarchie. Parce que quand vous signez un recommandé, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous signez plus sur un bout de papier, vous signez sur un boîtier numérique. Et à travers ce boîtier numérique-là, il peut être pisté, en fait, tout au long de sa tournée. Et aujourd'hui, il n'a plus le droit de rentrer chez vous pour boire un café. Pourquoi ? Parce que la Poste a mis en place un abonnement qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Vous devez payer, ça dépend, ouais, une trentaine d'euros. Après, ça dépend combien de jours vous voulez l'inviter à boire un café. Mais mettons que vous payez 30 euros, et donc le facteur, ce coup-là, sera obligé de venir boire le café chez vous, parce que la Poste aura été rémunérée pour ça. Donc ils arrivent à monétiser même les rapports humains les plus élémentaires, je dirais.
Oui, conférence de Nicolas Bérard que vous pouvez retrouver sur notre site internet microrebelle.fr. C'était un reportage signé Luc. Sans attendre, une nouvelle pause musicale. L'amour vache, c'est une création musicale qui a été réalisée lors des journées de création musicale de Zyklibrambib. Zyklibrambib, c'est le mouvement des bibliothécaires qui diffuse de la musique libre. On écoute tout de suite, sans attendre, L'amour vache.
Putain, mais quel con! Mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que j'attends? Alors, ah bah je comprends mieux maintenant. Oh, j'en reviens pas. Et avec ma cousine en plus.
Eh bien, ce micro-rebelle hebdo touche à sa fin tranquillement. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que vous pouvez nous solliciter pour toute idée de reportage, toute idée d'intervention sur notre territoire ou au-delà. Et si vous souhaitez vous-même participer à notre web radio, n'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je vous rappelle d'ailleurs notre Assemblée Générale le samedi 31 octobre au Lag à Liévin. C'est de 10h à 12h30. N'hésitez surtout pas. Le contact téléphonique 03 74 71 24 87. N'hésitez pas à laisser un message. Et le courriel contact@micro-rebelle.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, à 18h sur micro-rebelle.fr et en rediffusion chez nos amis de Radio PFM. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye, portez-vous bien.